Des cours de métaphysique du semestre d'été de Pâques jusqu'à l'ordination. Alors, je vous rappelle un peu ce que nous avons vu. Et ce qui nous reste à voir, nous entrons dans cette métaphysique d'Aristote. Saint Thomas n'a pas fait une métaphysique. Saint Thomas est un théologien, et chaque fois qu'il nous remet dans la perspective philosophique et métaphysique, il cite Aristote. Or, Aristote n'est pas commode à comprendre. Il ne faut pas trop le regarder en première année, sauf ceux qui sont très désireux de connaître ce que Aristote dit, le philosophe. C'est comme ça que saint Thomas le traite, le philosophe. Or, pour Aristote, la dernière recherche de l'intelligence, elle est faite pour aller jusqu'au bout, découvrir ce qu'il y a de premier. Notre intelligence n'est pas faite premièrement pour connaître les lois, mais pour atteindre les principes. Il faut petit à petit que vous dépassiez le point de vue positiviste qui confond loi et principe. C'est déjà beaucoup d'arriver à cette distinction. La loi, c'est ce que l'homme savant fait. La loi, c'est la relation. Le principe, ce n'est pas la relation. C'est le principe, c'est-à-dire ce qui est premier, ce au-delà de quoi on ne peut pas aller. Et on ne peut pas définir un principe, on le définit négativement, ce au-delà de quoi on ne peut pas aller. Et la recherche des principes, selon notre intelligence philosophique qui recherche les principes, les principes de l'être en tant qu'être, c'est à la fois ce qu'il y a de premier et ce qu'il y a d'ultime dans l'intelligence. L'intelligence ne peut, par la recherche des principes propres de l'être en tant qu'être, peut découvrir l'existence d'un être premier. Il ne peut pas découvrir l'existence de l'être premier en dehors de la saisie des principes propres de l'être en tant qu'être. Or, l'être en tant qu'être, ce que notre intelligence peut saisir dans tous nos jugements d'existence, l'intelligence saisit ce qui est. Et dans ce qui est en tant qu'être, il y a une réduplication sur l'être. Ce qui est en tant qu'être. Le crapaud existe, mais je ne fais pas la métaphysique du crapaud. Par le crapaud, je fais la métaphysique de l'être en tant qu'être. Parce que le crapaud existe. je dépasse le crapaud, parce que ma métaphysique ne s'arrête pas à ce petit animal. La métaphysique dépasse tout de suite cet être particulier, individuel. C'est l'être comme tel qu'elle veut saisir. Et c'est ça qui fait le sens de la métaphysique. Ce n'est pas l'être en tant que connu, en tant que mon intelligence le connaît. Alors ça, c'est l'être qui a un mode humain par ma connaissance. C'est l'être tel qu'il est. Et ce vers quoi je reviens toujours, ce qui est, la métaphysique essaie de saisir ce qui est comme être, pas les possibilités de l'être, mais ce qui est comme être, ce qui existe, ce qui est en acte, ce qui est comme être. Au bout de longues réflexions, la philosophie grecque a découvert avec Aristote ce qui est, du point de vue de la causalité formelle et du côté de la causalité finale. Il y a déjà quelque chose de très important à saisir. Que lorsqu'il s'agit de la métaphysique, ce qui est en tant qu'être, il n'y a pas de recherche de la causalité matérielle. Il n'y a pas de recherche de la causalité efficiente. C'est très étonnant, ça. C'est que mon intelligence, quand elle veut rechercher ce qui est en tant qu'être, c'est, elle découvre que cela ne peut être que selon la causalité formelle, selon la détermination. Tout être en tant qu'être est déterminé. Et donc la causalité formelle me permet de découvrir la détermination de l'être en tant qu'être. Ce n'est pas l'être en tant qu'être, mais la détermination. Son premier principe, selon la cause formelle, ce qui me permet de déterminer ce qu'est l'être en tant qu'être. Et la seconde recherche, c'est la recherche de l'être du point de vue final. Ce qu'est l'être en tant que fin. Ce en vue de quoi l'être est. Ce en vue de quoi l'être est. C'est la cause finale, ça. C'est l'ultime recherche. La première recherche de l'être selon sa forme est en vue de cette seconde recherche de l'être du point de vue de la fin. La métaphysique a ceci de très simple, comparativement à toutes les autres sciences, c'est qu'elle ne recherche que la cause formelle et que la cause finale. Et Aristote a découvert ça en critiquant Platon voyant que Platon ramenait tout à la détermination en soi et à la détermination intérieure, immanente et extrinsèque, causalité formelle. Platon n'a pas découvert la causalité finale. C'est le prof d'Aristote d'avoir découvert le point de vue de la causalité finale. Ce en vue de quoi? Et c'est justement ce qui caractérise la métaphysique d'Aristote, c'est la découverte de ce qui est premier, ce qui est principe, ce qui est premier, ce qui est principe dans l'ordre de la détermination dans l'être. L'être est déterminé comme être. Tout être comme être est déterminé. Et c'est la causalité formelle qui nous permet de découvrir ce point de vue de la détermination de l'être comme être. L'être n'est pas déterminé par autre chose que l'être. L'être est par lui-même déterminé. C'est pour ça que tout être, en tant qu'il est intelligible. Il est intelligible en raison même de sa détermination, en raison même de sa cuidité, ce qu'il est. Le mot qu'Aristote a découvert, le totienein, traduit en latin cuidité. Et même Sartre emploie le mot cuidité. C'est pour vous dire que depuis Aristote jusqu'à Sartre, le mot cuidité existe en philosophie. C'est le totienein. Ça, il faut le penser. Hein. Le totienein, tien. Le tien est compris dans le totienein. Le totienein, c'est ce qui est. Et le tien, c'est dans ce qui est, quid. Qu'est-ce qu'il est? C'est la recherche de la détermination de l'être en tant qu'être. Alors, ça, c'est une découverte de la substance. Le principe de la détermination de l'être, c'est la substance. La substance, c'est la détermination fondamentale de l'être, en tant qu'être. Opposé à l'accident. La relation est un accident. Un accident de l'être. Ce n'est pas l'être en tant qu'être. C'est l'être en tant qu'il est d'une fragilité telle qu'il ne se définit que grâce à l'autre. Il ne se définit pas par lui-même. Tandis que la substance, c'est l'être qui se définit par soi-même. Il est. Quand vous dites « il est » et que vous insistez sur sa détermination d'être, vous saisissez, pas dans tous les êtres, hein, dans l'araignée, dans le crapaud, il n'y a pas de substance. Il y a une nature. Alors vous arrivez tout de suite à distinguer la nature de la substance. La nature, principe de mouvement. La substance, principe de ce qui est en tant qu'être. Et vous devez réfléchir sur ce dépassement de la nature dans la saisie de la substance. Toutes les réalités qui sont autour de vous ont une certaine nature. l'homme est sans doute le seul être que je peux expérimenter ayant une substance. Est-ce que la vache a une substance ? La vache a une nature, ça c'est sûr. Je reconnais une vache d'un cheval. C'est pas tout à fait la même nature, ou d'un chien. C'est pas la même chose du tout. La nature de la vache, ce n'est pas de donner des veaux. La génération, tous les animaux engendrent le même. Vous voyez, toute la nature, c'est tout de suite la génération. La substance, ce n'est pas tout de suite la génération. Non. C'est l'être, en tant qu'être, il est déterminé. Et la découverte de la substance est quelque chose de très important. Voyez, puisque c'est la détermination la plus radicale de ce qui est. Mais il faut dépasser ça. Et c'est là tout l'effort de la métaphysique que nous avons essayé de faire au semestre dernier, les deux derniers semestres. Ce pourquoi l'être est. Quelle est la causalité finale de ce qui est en tant qu'être ? La causalité finale de ce qui est en tant qu'être n'est pas quelque chose qui est en dehors de l'être. Vous voyez, l'imagination fait tout de suite ça. Ce en vue de quoi est l'être, c'est donc quelque chose qui n'est pas l'être. Alors, ce serait le néant. Et pourquoi on a dit que la finalité de l'être, c'est le néant, Sartre. Ils ne saisissent pas que la finalité de l'être, en tant qu'être, c'est l'acte. Substance et acte. Ce en vue de quoi est l'être, c'est l'acte. C'est l'être en acte. C'est l'être pleinement être qui est ce en vue de quoi est l'être. La finalité de l'être n'est pas extrinsèque à l'être. Ce serait le non-être. Alors ce serait comme certains ont dit l'être puissance seconde. Mais c'est encore l'être. Et c'est ça qui est tout à fait particulier, de saisir la finalité, nous, instinctivement. La finalité, c'est au-delà, ce que nous cherchons. Parce que c'est vrai, la finalité n'est pas en nous. Notre finalité n'est pas en nous. Si nous mettions la finalité en nous, nous serions d'un égoïsme farouche. La finalité est extrinsèque à nous. Quel est le premier moment où vous saisissez la finalité ? Direct. C'est dans l'amitié. Vous saisissez l'autre en tant qu'autre qui est mon ami et donc qui m'attire. Alors, l'autre en tant qu'autre, c'est justement l'autre. Ce n'est pas moi, mais l'autre en tant qu'autre, du point de vue de l'être, c'est l'être parfaitement réalisé. Quand vous aimez, vous atteignez votre fin. D'où cette précision qu'Aristote a faite. Lorsqu'il s'agit de la finalité, de saisir l'entelechia, et l'énergia. La scolastique a dit acte premier, acte second, parce que le latin ne pouvait pas traduire cette distinction grecque. Entelekeia, c'est un mot qu'Aristote a inventé. En, telos, ekein. C'est l'avoir dans la fin. C'est ça la finalité. Oui, quand vous avez un chat devant vous et que vous lui faites des petites grimaces au-dessus de sa tête, il fait ron, ron, ron. Il est très heureux. Il a sa finalité. Il possède sa finalité. Il est lui-même. Parfaitement lui-même, l'acte. L'être en tant qu'être, sa fin, c'est son acte. C'est d'être parfaitement lui-même. C'est très beau comme définition et découverte de la finalité, être parfaitement lui-même. Alors Aristote tout de suite distingue pour l'homme, pas pour Dieu, pour l'homme. Donc pas pour l'être, pour l'homme. Pour l'homme, il y a le fait avoir sa fin, être dans sa fin. Alors entelekeia, il est dans sa fin. Alors c'est immanent, hein, être dans sa fin. Mais pour être dans sa fin, il faut être finalisé. Et la fin est autre que être dans sa fin. C'est telos alors. La fin est en dehors. C'est beau de saisir ce point de vue de l'acte pris d'une façon immanente, entelekeia, et puis l'autre, energeia. Alors, cette recherche de l'être en tant qu'être, au point de vue de la finalité, est capitale. Et c'est la grande découverte d'Aristote. La finalité, c'est ta grande découverte, ce dépassement de la détermination, ce dépassement de la définition. L'intelligence, très souvent, reste dans la définition. Et quand elle reste dans la définition, elle ne dépasse donc pas la cause formelle, la détermination. Pour dépasser cette cause formelle, il faut qu'elle atteigne sa fin. Et quand l'intelligence atteint sa fin, alors, quelle est la fin de l'homme ? C'est le bien. Et c'est l'amour. Il faut aimer le bien. L'effet du bien sur moi, c'est de l'aimer. Mais l'amour peut se comprendre en tant que la finalité exerce son attraction sur moi. Je suis attiré par le fin. Et en tant que je la possède d'une façon immanente. C'est très étonnant de voir justement que le propre de la causalité finale, qui est un dépassement, et que l'intelligence peut découvrir à partir de l'amour. La finalité a été perdu très très vite. elle était perdue dans toutes les métaphysiques contemporaines autour d'Aristote, autour de saint Thomas. Si saint Thomas est revenu à Aristote, et en faisant ce geste revenir à Aristote, saint Thomas a commis un acte héroïque, puisqu'il s'est séparé de la Sorbonne, et la Sorbonne l'a attaqué. Elle ne l'aimait pas beaucoup. Elle a attaqué saint Thomas. Parce que saint Thomas est revenu à Aristote. Et c'est très curieux. La Sorbonne en France revient à Aristote depuis un an, deux ans. En Angleterre, Aristote est toujours resté quelqu'un qu'on travaillait. Mais on le travaillait un peu matériellement. Et on ne saisissait pas ce qu'il y avait de propre à sa finalité. Mais ce qui a porté un coup terrible à la finalité, c'est lorsqu'on a compris la finalité d'une façon exemplaire. C'est-à-dire pas la vraie finalité. Alors, le positivisme d'Auguste Comte, le grand-père du positivisme en France, et on retrouvait dans tous les autres pays la même attaque, différente, mais toujours une attaque à la finalité. Auguste Comte critique violemment la finalité comme quelque chose de métaphorique, symbolique. C'est l'imagination qu'il découvre. C'est le poète. Le poète, il découvre la finalité. C'est un rêve. La finalité est un rêve. Et ça a une influence sur toute la théologie. C'est très curieux. On a découvert, il n'y a pas si longtemps, il y a 30 ans, je dis qu'il n'y a pas si longtemps, parce que c'est vrai, on a découvert que les thomistes, même les grands thomistes, comme Jean de Saint-Thomas, lorsqu'ils parlent de la finalité, disent qu'elle est symbolique, métaphorique. Par le fait même, alors là, j'en ai la certitude, un des professeurs de philosophie que j'ai très bien connu, le père Gardeil, le petit Gardeil, pas le grand, c'est-à-dire c'était son neveu, a voulu faire une petite métaphysique. Et dans cette métaphysique, il ne parle que de la substance. Il ne parle plus de l'acte. La causalité finale est terminée. Pourquoi ça? C'est qu'on a découvert qu'un disciple qui n'était pas un disciple de saint Thomas, est passé comme un disciple de saint Thomas. Et lui était scotiste, Don Scott. Don Scott affirme que la causalité finale est métaphorique. Et alors, à partir de la fin du XIVe siècle, on a affirmé à l'intérieur du thomisme, que la causalité finale est métaphorique. Alors, ça fait un coup terrible, ça. pour la métaphysique, on ne recherche plus que la substance. Et l'acte est laissé. Donc, tout notre effort, c'est d'essayer de réintroduire cette recherche de l'acte, cette recherche de la cause finale, au point de vue de l'être en tant qu'être. Découvrir que la causalité finale de l'être en tant qu'être, c'est l'acte. Acte premier, acte second, c'est l'acte. Ce qui finalise et ce qui est finalisé. Entelekeia energeia. Et ça, c'est capital. Redécouvrir la cause et finalité à partir de l'être en tant qu'être. Et voir que la recherche de la causalité finale, c'est, au dire d'Aristote, la cause des causes. La finalité, c'est la cause des causes. Alors, il s'agit de bien comprendre. Si je suis en philosophie de la nature, la philosophie de la nature est très développée chez Aristote. La philosophie de la nature découvre la forme et la matière. Matière, cause de l'être physique, de la nature. Et la forme, sa détermination. Et c'est vrai que tout le monde physique implique matière et forme. Et une fois que la forme est découverte, on voit que c'est la forme qui est la fin. Il n'y a pas d'induction propre de la finalité au niveau de la philosophie de la nature. Mais la finalité est découverte à partir de la forme. Si je me place en éthique, c'est-à-dire l'étude de l'activité humaine, l'étude de l'activité humaine implique une recherche directe de la finalité. Aristote commence son étude d'éthique par le bonheur. Et le bonheur, c'est ce qui me finalise. Je suis finalisé par le bonheur. Et donc, c'est en éthique que je redécouvre la causalité finale comme principe, sans passer par la forme. Et on a laissé de côté l'éthique. On a pris la philosophie de la nature et la métaphysique. Alors que la causalité finale se découvre en premier lieu par l'amitié. Parce que l'ami est mon premier bien que j'aime et que j'ai choisi. Et c'est grâce à la finalité, grâce à l'amitié, que je découvre la finalité. Comme un principe propre, sans passer par la cause formelle. Et c'est très curieux que la plupart des thomistes, ça je donne l'expérience de les thomistes au Solchoir, ne voient la causalité finale qu'à partir de la philosophie de la nature, c'est-à-dire comme une conséquence de la causalité formelle. Mais alors, je ne saisis plus la finalité comme principe. Je la saisis comme conclusion. Et c'est, je crois, cela qu'il faut rectifier. La finalité, elle est cause des causes. Donc c'est le principe par excellence. Tant que je n'ai pas déterminé la fin, je ne connais pas vraiment ce qui est en tant qu'être. Ceci, c'est très important. Et tout l'effort du semestre précédent était de saisir l'acte de ce qui est en tant qu'il est, c'est-à-dire de saisir la causalité finale pour elle-même, dans son caractère propre de cause finale, cause des causes. Ceci, c'est la rectification au point de vue métaphysique que je crois très importante. Parce que les conséquences sont directes au point de vue, au point de vue théologique. Si je lis l'encyclique du pape, je vous l'ai recommandé, hein, tous les ans, chaque année, vous devez la lire. Quand vous serez en théologie, quand vous êtes en philosophie, je vous en fais grâce. Mais en théologie, il faut la lire tous les ans. C'est, je crois, l'encyclique qui montre le mieux, avec le plus de précision, le rôle de la métaphysique en théologie. Seule la métaphysique peut être utilisée directement en théologie. Il faut arriver à comprendre ça. Pourquoi ? Parce que seule la métaphysique dépasse le mode humain de la saisie des choses, c'est-à-dire l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être, ce n'est pas l'homme. L'être en tant qu'être, c'est une vision métaphysique, donc au-dessus du mode humain, de la réalité. Et comme la foi est une connaissance surhumaine et divine, la foi n'a pas un mode humain en tant que foi. Dans l'exercice de la foi, il y a un mode humain. Mais l'exercice de la foi n'est pas la foi. La foi, dans son objet propre, atteint directement Dieu se révélant. Et donc, seule la métaphysique qui regarde l'être en tant qu'être peut être au service de la foi. Parce que justement, elle ne garde pas le mode humain. Tandis que tout le reste, la psychologie, la philosophie du vivant, sans l'avoir du point de vue métaphysique, garde un point de vue humain. Et par le fait même, si je m'en sers au point de vue théologique, je ramène la parole de Dieu à un point de vue humain. D'où la psychologie. Et tout ça, c'est sien. Alors, la psychologie m'aide à comprendre la parole de Dieu. Mais la psychologie, elle a un mode humain. Est-ce que la psychologie me permet de connaître le Christ en tant qu'il est Dieu? Non. Dieu est au-dessus. Le Christ est au-dessus. Est-ce que ma métaphysique me permet de connaître le Christ en tant que Dieu? Oui, parce qu'il est. Vous voyez l'importance de ce dépassement du mode humain. Ce dépassement du mode humain, je l'ai par ma métaphysique. Et je saisis par ma métaphysique l'intelligence comme intelligence qui saisit ce qui est en tant qu'être. Donc, le Saint-Père, quand il écrit l'encyclique Fides et Ratio, montre cela d'une façon merveilleuse. Je crois que c'est celui qui a parlé de la manière la plus profonde sur saint Thomas théologien. Saint Thomas avait besoin de la philosophie, de la métaphysique, qu'il puisait dans Aristote pour pouvoir construire sa théologie. Mais il ne découvre pas une nouvelle philosophie. Il prend la philosophie de l'être chez Aristote au point de vue substance et au point de vue acte. Chez Aristote, c'est très net. Il y a une découverte de ce qui est en tant qu'être comme détermination de la substance. Ce qui est du point de vue de la finalité, c'est l'acte. Alors les deux nous permettent à préciser le mystère de la parole de Dieu, la signification de la parole de Dieu par l'acte. Cause finale. Je ne peux pas demeurer par la forme. Je dois aller jusqu'au bout. Causalité finale me permet d'avoir un regard divin, du moins me permet d'aider mon regard divin de la foi, sans ramener la parole de Dieu à une parole humaine. Pour découvrir le caractère propre de la parole de Dieu, il me faut une métaphysique de la substance et de l'acte. Or, de fait, la métaphysique de l'acte a disparu progressivement. Je prends comme témoignage, parce que c'est intéressant de voir ça, le père Gardeil, professeur de philosophie au Saulchoir, à la fin de sa vie, a voulu faire une petite métaphysique, thomiste. Vous devez l'avoir à la bibliothèque. Et dans cette métaphysique thomiste, je regarde, je vois la substance. Puis, je cherche, au point de vue fin, quelle est la cause finale de l'être en tant qu'être. Rien. Il n'y a rien sur l'acte. Comme principe selon la fin de l'être. Ça montre bien que le point de vue de la causalité finale au point de vue de l'être n'a pas été gardé. On est resté sur la causalité formelle. C'est pour ça que j'insiste tellement sur cette découverte. C'est une découverte que nous devons faire de l'être dans sa finalité et découvrir ce qu'il y a de propre de l'être dans les finalités. Et là, on voit que l'éthique joue un rôle plus direct que la philosophie de la nature. La philosophie de la nature ne m'indique pas et ne me permet pas de saisir la causalité finale. Je saisis la causalité finale comme une conclusion. Or, saisir la causalité finale comme une conclusion, ce n'est pas saisir la fin comme principe. Il faut une induction. Il faut une induction pour saisir l'être selon la fin, saisir ce principe selon la fin, une induction. L'induction, vous savez ce que ça représente. Hein ? L'induction, c'est passer de l'expérience à la saisie d'un principe. Un principe métaphysique se saisit à partir de l'expérience. Quelle est l'expérience la plus parfaite au point de vue humain ? C'est l'expérience de l'amitié. Aristote a très bien compris ça. Il a consacré deux livres dans l'éthique sur l'amitié. Parce qu'il y a quelque chose de tout à fait propre à la saisie de l'amitié. Ça me permet de saisir la finalité comme principe. De la saisir au niveau humain, mais de la saisir à ce niveau-là. Donc, je dois me servir de cette expérience de l'amitié pour faire ce grand dépassement. Le grand dépassement métaphysique, c'est de découvrir l'être premier, l'acte premier, Dieu. Je ne peux pas saisir pleinement Dieu comme être premier uniquement par la substance. Certains philosophes ont essayé cela. Faire une philosophie de la substance uniquement et découvrir Dieu, il tombe dans le panthéisme. Parce que la substance est immanente. Seule la causalité finale me permet de découvrir le transcendant. Je passe de entelekeia à energeia. Entelekeia, c'est la finalité immanente. Je possède ma finalité. Je contemple. Quand vous contemplez, vous possédez votre finalité. Quand vous contemplez Dieu, je passe de entelekeia, l'immanence de la finalité, à la transcendance de la finalité. Et la transcendance de la finalité, c'est l'être premier, c'est l'acte pur. C'est l'être premier qui est acte pur. Et c'est par la finalité, et ça, saint Thomas est très net là-dessus, l'erreur de la scolastique, parce que je peux dire là qu'il y a erreur, et j'ai commis cette erreur moi aussi. C'est lorsqu'il s'agit des preuves de l'existence de Dieu, de prendre les cinq voies comme cinq preuves de l'existence de Dieu. Or, saint Thomas parle des preuves de l'existence de Dieu d'un point de vue critique et pas d'un point de vue métaphysique. Il en parle dans sa somme pour montrer que je ne peux atteindre l'existence de Dieu, de l'être premier, que par la finalité. Ça, c'est très net. Et donc, saint Thomas donne les cinq voies dans le même article. Donc, ça veut dire que ces cinq voies me permettent successivement d'atteindre l'existence de Dieu, mais je n'atteins l'existence de Dieu que par la finalité. Je ne peux pas atteindre l'existence de Dieu par la causalité formelle. Je ne peux pas atteindre l'existence de Dieu par la causalité efficiente. Je ne peux pas atteindre l'existence de Dieu par la causalité matérielle. Seule la finalité me le permet. En comprenant bien que la finalité immanente appelle la finalité transcendante. Ça, nous verrons d'une façon plus précise l'année prochaine. Mais je crois que c'est très important déjà de savoir que c'est cette piste qu'il faut voir, que les cinq voies, c'est un conditionnement, c'est une étude critique sur le conditionnement de mon intelligence humaine. Mon intelligence humaine peut découvrir l'existence de Dieu, mais l'existence humaine, pour découvrir l'existence de Dieu, doit nécessairement aller sur la crête le plus loin possible, c'est-à-dire la causalité finale. La causalité finale, c'est-à-dire l'acte. Et je découvre Dieu comme acte pur. Vous voyez, ceci nous permet de mieux comprendre comment il faut être très attentif à cette distinction nature-personne. Au fond, on s'est arrêté constamment à la nature. On n'a pas vu suffisamment ce dépassement de la nature dans la personne, c'est-à-dire une nature spirituelle. La personne, c'est une nature spirituelle, intelligence et volonté. Et que l'existence, la découverte de l'existence de Dieu ne peut pas se faire par la nature. Elle ne peut se faire que par la personne. Vous voyez, c'est là où on voit l'importance de saint Augustin. Et on comprend comment saint Thomas ne quitte jamais Augustin, mais le prolonge et le précise. Saint Augustin, lui, l'existence de Dieu, c'est dans l'expérience personnelle. Pour saint Thomas, on ne peut découvrir l'existence de Dieu qu'en voyant le point de vue personnel dans la finalité, le dépassement de la nature. je ne peux pas découvrir Dieu uniquement par la nature. Parce que par la nature, la cause formelle demeure toujours première. Et je ne peux pas découvrir Dieu par la cause formelle. Si je pouvais découvrir Dieu par la cause formelle, je verrais Dieu. Or, je ne vois pas Dieu lorsque j'affirme que Dieu existe. J'affirme un dépassement nécessaire, un dépassement objectivement nécessaire, et qui est un dépassement que mon intelligence saisit nécessairement, puisque tout repose sur cette découverte. La sagesse présuppose la découverte de l'être premier. S'il n'y a pas la découverte de l'être premier, il n'y a pas de sagesse.